Pierre Berger, vous avez bien connu Andy Warhol. Je crois même savoir que vous lui avez prêté votre appartement pour tourner un film. Est-ce que c'est vrai?
Ah oui, c'est vrai, ça. J'avais même complètement oublié. Je ne sais même plus de quel film il s'agit. Oui, j'ai bien connu Andy. Il est tombé dans notre vie, la mienne et celle de Yves Saint-Laurent, comme ça, au milieu des années 60. Et c'était des années qui ont d'ailleurs mal fini, puisque la plupart des acteurs de ces années-là ont terminé souvent tristement dans la drogue.
Beaucoup sont morts.
Beaucoup sont morts. Enfin, tout ça fait que, au fond, ces années d'insouciance, de folie, l'époque de ce qui a été le Swinging London, par exemple, et puis toutes les folies new-yorkaises que nous avons tous très bien connues, ça laisse un petit goût amer lorsqu'on réfléchit à ça. Et puis Andy est mort. Voilà. Andy, d'abord, avait été reçu une balle de revolver, comme on sait, et il avait failli mourir. Donc c'était déjà un personnage complètement marginal, de toute manière. Et il l'était déjà physiquement, d'abord parce qu'handicapé, un petit peu, puis ensuite avec cette espèce de perruque qu'il avait. Il en avait trois comme ça. Il avait une perruque cheveux courts, et pour que montrer ou faire croire que ses cheveux s'allongeaient, il avait deux autres perruques avec les cheveux un peu plus longs. Comme ça, puis repartait à la première tous les mois environ. Et il était une espèce d'albinos myope. Et comme beaucoup de myopes, il voyait admirablement. Il avait un œil superbe, aigu. Il avait un sens absolu de la création et de la créativité. Et tout l'intéressait. C'était ça qui était merveilleux chez Andy. Il n'y avait pas de cloisonnement. Il n'y avait pas l'art d'un côté et le noir de l'autre. Tout ça le faisait plutôt rire. Il prenait la création où elle se trouvait. Et il était fasciné par des créations différentes de la sienne. La mode, par exemple. Mais il faut dire aussi qu'il avait, au début de sa carrière, créé des chaussures. Il avait été un dessinateur et un créateur de chaussures. Donc tout ça approchait évidemment la mode. La mode le fascinait. Chaque fois qu'il le pouvait, il venait voir une collection de Saint-Laurent. Et Andy a écrit que l'artiste le plus important français était Yves Saint-Laurent. Je veux dire, il n'a pas eu peur d'aller jusque-là. Alors c'était quand même formidable.
Alors vous l'avez rencontré à New York ou à Paris d'abord?
Je crois que je ne sais plus. Mais moi, j'ai souvenir d'avoir comme ça Andy Warhol. Et puis après, on ne s'est pas, je ne veux pas dire pas quitté, mais on a continué tout le temps à se voir. Par exemple, on a une maison au Maroc, à Marrakech, et on a passé plusieurs fois Pâques, les vacances de Pâques avec lui. Il venait là, on était là, il s'amusait beaucoup, nous aussi. Enfin, c'était comme ça, une amitié faite d'estime, de respect réciproque, de discrétion, de connaissance des autres.
On a du mal à imaginer l'attitude d'Andy Warhol en vacances. Comment il était en vacances?
Il était exactement comme ailleurs. Il a toujours une cravate, un blazer marine et un jean.
Et voilà. Il parlait bien, beaucoup.
Il était disert. Il ne buvait pas. Vous savez qu'Andy ne se droguait pas, ne buvait pas une goutte d'alcool. Il était quelqu'un de très sobre. C'est un voyeur. Et c'est probablement parce qu'il était un voyeur que beaucoup de choses ont existé à ce point autour de lui, parce que chacun voulait se montrer à Andy et se faire observer par Andy. Elle était un voyeur, c'est comme ça qu'il pouvait finir dans des boîtes de nuit jusqu'à 4h, 5 ou 6h du matin pour voir des gens se dénuder ou commencer à se livrer à quelques orgies dans un coin ou dans un autre. Ça l'amusait beaucoup, tout ça, toutes ces histoires l'amusaient.
Dire des choses sur la vie parisienne d'Andy Warhol, où est-ce qu'il allait quand il était à Paris?
La vie parisienne d'Andy Warhol, d'abord je suis responsable d'une grande partie de sa vie parisienne, puisque justement, c'est moi qui lui ai fait acheter son appartement. C'était l'appartement de Violette Tréfusis, lié, comme on sait, à Vita Sackville-West et à toute cette école anglaise. C'est 15 rue du Cherche-Midi. Il avait été très ébloui par l'appartement, puisqu'il avait un grand passé. Donc il avait été très, très enthousiasmé, mais il ne savait pas très bien mener ces négociations-là. Et lui et Fred Hughes, qui était l'homme qui s'occupait d'affaires auprès de lui, Fred Hughes m'a téléphoné un jour en me disant, écoute, je voudrais que tu m'aides dans ces négociations. Donc j'ai mené pour Andy Warhol les négociations de son appartement parisien.
Voilà. Alors il était comment cet appartement parisien? Je pense que ça n'avait rien à voir avec la Factory.
Non, ça n'avait rien à voir avec la Factory. C'est un appartement au fond d'une cour merveilleuse, avec un petit jardin, comme ça, c'est très beau. Et au fond de ça, on monte et on arrive dans un grand salon carré qui a la particularité de ne pas avoir de fenêtre et qui est simplement éclairé par une verrière. Voilà. Mais après, il y avait d'autres petites pièces éclairées normalement, bien sûr. Très, très jolie petite chambre à laquelle on accédait par un petit escalier dérobé. Tout ça était rempli de charme. Et le fait que ce salon, finalement, était éclairé par cette verrière qui dispensait une espèce de lumière constamment froide, donnait une espèce de magie à ce lieu. Et les gens qui étaient là, les objets, les choses, il y avait un merveilleux tapis de boisseau. Il commençait à collectionner là.
C'était en quelle année? Il achète cet appartement?
Dans les débuts 70. Et il a commencé à collectionner des meubles des années 30. Il en avait de très très beaux.
Ah, de qui?
Tout le monde. De Roulman et de Franck et des choses de Charot très belles. Il avait un tapis de boisseau exceptionnel avec des grandes tulipes qui faisaient le tour du tapis, comme ça.
Quelle couleur, les tulipes?
Les tulipes étaient multicolores, mais en majorité blanches. Et c'était très, très beau, tout ça. Il avait un grand goût. Puis, il vivait avec un garçon qui s'appelle Jed Johnson, qui est un décorateur d'intérieur, et qui a eu, peut-être pas une grande influence sur la vie d'Andy, mais une influence sur le quotidien, comme ça, d'Andy, et qui était très, lui, très sensible, justement, à cette époque, à ses meubles, tout ça. Et qui lui a fait acheter, car c'est lui qui a eu cette influence-là aussi, et ça, c'est pour sa maison des États-Unis, de New York, qui lui a fait acheter de l'art américain, c'est-à-dire des meubles américains, ce que peu de gens connaissaient. Et maintenant, bon, c'est comme tout, ça est devenu à la mode, ici ou là, les musées américains s'arrachent ces pièces-là. Mais à l'époque, personne ne savait ce que c'était. C'était des meubles faits au XVIIIe siècle et XIXe par des artistes qui avaient fui très souvent l'Angleterre et qui étaient venus s'installer dans des villes telles que Boston ou Chicago en majorité. Et là, c'est créé une espèce de style très intéressant et de grande qualité d'ébénisterie.
Est-ce qu'il aimait Paris et comment est-ce qu'il aimait Paris? Il sortait beaucoup ou est-ce qu'il allait quand il allait à Paris?
Oui, il adorait Paris. Il adorait déjeuner chez Angelina.
C'est merveilleux, rue de Rivoli.
Rue de Rivoli. Il adorait aller chez Maxim's. Il adorait la nuit aller au Jimmy's à l'époque ou chez Régine ou Castel. Il adorait tout ça. Et puis, il était par mondain, je vous ai dit qu'il était voyeur. Donc, ce n'est pas la même chose, je le précise bien. Mais il adorait aller dans tous les cocktails, justement pour voir. Parce que ça le fascinait, regardez. Je dirais, tout à fait autrement, avec une différente approche, et ô combien, il y a un côté proustien dans Andy. Il y a vraiment un côté Proust. Il est là, assis, il regarde, il observe, puis il écrit. Et puis, il prenait des notes. Les notes, c'était ses polaroïdes. C'est pour ça que c'était un petit peu fatigant. D'ailleurs, Andy avait toujours ses polaroïdes et clac-clac dans chaque cocktail ou réception ou vernissage où on allait, où on se trouvait. Il y avait un petit mitraillage de polaroïdes. D'ailleurs, il en a publié un livre lui-même depuis. Puis il en a des milliers, peut-être dizaines, peut-être des centaines de milliers. J'espère que tout ça est archivé convenablement et verra le jour en temps utile. C'était ça, Andy. C'est un homme qui avait une espèce de frénésie de sortir, de voir les gens. Il avait un humour fou, vous savez. Moi, à Venise, un jour, nous étions en vacances ensemble. En général, on était très souvent, on s'est trouvé au mois de septembre ensemble à Venise. Alors,
c'est la meilleure saison.
Je lui dis, Andy, je vais vous voir une église cet après-midi, tu viens avec moi. Et il me dit, oh, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y a dedans. J'ai dit, bah, il y a un Véronèse formidable. Et il me répond, Virnalisi est à Venise dans une église. Oh, alors j'y vais tout de suite. Voilà. Tout bien ça, sûr. Vous savez, c'était un jeu. Il savait mieux que n'importe qui était Véronèse. Mais Virnalisi amusait vraiment. Il aimait beaucoup les starlettes, les stars de ce genre. Tout ça, c'était tout ce qu'il aimait. Stephanie said that she wants to know why she's given half her life to people she hates now. Et puis les grosses stars aussi, les mecs. Alors là, Elizabeth Taylor, cette histoire-là, toutes ces affaires, ça le passionnait, ça.
Est-ce qu'il venait souvent à Paris?
Oui, il venait régulièrement à Paris. Passait un peu de temps. Il allait en Suisse pour ses affaires, beaucoup. Et il passait un peu de temps à Paris, chez lui. Mais pas autant qu'il aurait voulu, j'imagine.
Vous avez l'impression qu'il était conscient de ses origines européennes et que...
Ah ben, complètement. Il est un Tchèque d'expression américaine, comme Kafka est un Tchèque d'expression allemande. Vous savez, sa mère ne parlait pas l'anglais. Il était obligé de parler le tchèque avec sa mère. Donc déjà, c'était déjà une chose très particulière. Oui, il était très conscient de tout ça.
On sait quel rapport mystérieux, flou, ambigu Andy Warhol entretenait avec sa biographie, comme s'il n'avait pas vraiment d'origine précise, comme si sa biographie était sans cesse à réécrire et à réinventer.
D'abord, la mère de Warhol aimait beaucoup, elle était tchèque.
Pascal de Mesamat.
Aimait beaucoup elle-même broder sur ses propres origines familiales. Et Warhol a automatiquement pris le même pli. Le fait d'être né tout bêtement dans la chambre de ses parents, d'une petite banlieue de Pittsburgh, n'était pas très valorisant. Il s'est beaucoup amusé à inventer des lieux de naissance fictifs et à rêver sa naissance, à rêver ses origines, à rêver d'autres parents. Et à partir du moment où il a enfant, il est énormément allé au cinéma. Son imagination a complètement débordé et je crois qu'il a rêvé et peut-être qu'il pensait vraiment avoir d'autres origines. Parce qu'être tchèque dans la banlieue ouvrière de Pittsburgh au début des années 40, c'était quelque chose de très frustrant. Ils étaient traités comme des réprouvés. C'était vraiment les derniers des derniers des immigrés.
Ils étaient d'ailleurs les derniers des derniers
oui,
des immigrés.
Oui, ils s'appelaient des Yankees. Et ils étaient vraiment méprisés, même par les Allemands, tous les autres immigrés des pays de l'Est qui étaient venus à Pittsburgh après la guerre. La famille de son père était très pauvre. C'était une famille d'agriculteurs, de laboureurs. C'était même des gens qui se louaient. Ce n'était pas du tout des propriétaires. C'était des gens qui se louaient. Et son père et sa mère sont restés séparés très longtemps, presque 10 ans. Elle étant restée dans la famille paternelle à Mikova, en Tchécoslovaquie. Et elle n'a pu rejoindre son mari qu'après, bien après la guerre, quand elle avait pu réunir un petit peu d'argent.
Alors donc, c'est le cœur de l'Europe, enfin, bon, le berceau, entre guillemets, familial, c'est le cœur de l'Europe.
Absolument, parce qu'il y a, il y a des frères des oncles, donc des frères de sa mère, qui combattent dans les armées de François-Joseph et dans l'Empire autrichien. On est vraiment... En plein cœur de l'Europe, oui.
La mère a déjà quand même un parcours de jeune fille assez exceptionnel. Elle a suivi, par exemple, des tziganes pour aller chanter, parce qu'elle avait une belle voix.
Oui.
Avec sa sœur.
Oui. Alors là, bon, c'est toujours pareil. On ne sait pas si Julia, sa mère s'appelait Julia, a inventé cela, ou si elle a vraiment eu une jeunesse, comme elle disait, artistique, un peu musicale, pour se démarquer du milieu de son mari, qui était vraiment des paysans très très simples.
Il avait raison de se sentir européen. It's a Czechoslovakian custom my mother passed on to me. The way to make friends, Andy, is invite them up for tea. Open house. Open house. J'étais très lié avec cette femme admirable qui s'appelait Lili Brick, c'est-à-dire la dernière égérie de Mayakovsky. Ça a une dimension historique, dans le monde tout entier, et singulièrement en Union soviétique, bien sûr. Moi, j'allais la voir assez souvent en Union soviétique. Puis je l'avais invitée à Paris pour passer 2 mois, elle et son mari, Vassili Catania. Et le jour, le lendemain, puisqu'ils sont arrivés un soir à Orly, à ce moment-là, je suis allé les chercher avec Aragon. Et le lendemain, j'avais eu l'idée, c'était l'automne, mais un bel automne, de faire une espèce de déjeuner, ce que les gens se croient obligés d'appeler un brunch, de faire une espèce de déjeuner buffet sur des terrasses du Crillon que j'avais louées, où il faisait beau, il y avait des salins, étaient abrités, et j'avais invité Andy. Et je me rappelle tellement Andy autour d'elle, en train de la mitrailler de Polaroid, et comment il était fasciné par cette femme. Bon, il ne parlait pas le français, il ne parlait pas très bien l'anglais, mais enfin, ils se sont très très bien, très 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 bien entendu. Et j'ai des photos de cela. Et il était passionné par tout ça. Il était passionné aussi par les chiens. Il avait un chien qui s'appelait Archie, qui était un petit basset. Et Archie avait une grande passion pour la chienne d'Yves Saint-Laurent, qui était un chihuahua, et qui s'appelait Hazel. Et Archie apportait des cadeaux à Hazel. Et je me rappelle que Archie avait apporté une laisse qui était composée d'un attache pour attacher au collier, puis il y avait un petit manche, et puis de là on dépliait un parapluie à l'envers en plastique. C'était pour protéger le chien lorsqu'il se mettait à pleuvoir. Alors ça, tous ces objets-là, tout ça, tout ce qui ressemblait à ces objets, tout ce qui était kitsch en un mot, c'était probablement ce qu'Andy Warhol aimait le plus. You scared yourself with music, I scared myself with pain. I drew 550 different shoes today, it almost made me faint. Open house. Open house.